30 en temps universel, 6h30 à Antananarive. Merci d'écouter RFI.
Arthur Ponchelet.
Samedi 3 mai, bonjour à tous, c'est Afrique Matin qui commence à la une, retrouver sa maison détruite et tout recommencer. Parole de déplacés soudanais dès le début de ce journal, suite de nos reportages grand format. Après plus de 2 ans de guerre, on entendra ceux qui veulent rentrer chez eux. Reportage ensuite à Antananarive, la capitale malgache où malgré les rénovations avant le sommet de la commission de l'océan Indien, certains habitants attendent toujours les travaux. Dans ce journal aussi, la RDC et le Rwanda n'ont pas encore publié leur avant-projet d'accord de paix. Du jamais vu en 20 ans, la FAO alerte sur une invasion de criquets pèlerins. Et puis reportage sur les routes du Tour cycliste du Bénin, où les coureurs béninois tentent de tirer leur épingle du jeu. Exécuté car accusé de collaborer avec l'armée. Au Soudan, au moins 27 civils ont été tués par les paramilitaires. C'est ce que dit ce matin un collectif pro-démocratie, nouvelle illustration de la guerre qui fait rage depuis plus de 2 ans dans le pays. Malgré les combats qui se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires, certains font le choix de rentrer et de retrouver leur maison à Khartoum. Depuis le début de l'année, 400 000 déplacés internes sont rentrés chez eux, selon l'Organisation internationale des migrations. Reportage RFI grand format à la gare de Port-Soudan, Gaël Alex.
La ligne entre Port-Soudan et Atbara est le dernier vestige du chemin de fer soudanais. Avant la guerre, elle se poursuivait jusqu'à Khartoum. Mehdi Ibrahim Al-Khalifa charge ses valises.
Je suis à Port-Soudan en tant que déplacé. J'ai quitté Khartoum, suis passé par Atbara puis le nord du pays. Ma maison à Khartoum était très belle. Maintenant, j'ai tout perdu. Mais Khartoum est de nouveau sûr et je rentre pour reconstruire ma vie.
Un enthousiasme que ne partage pas Moudissir Mohamed Al-Hassan. Il retourne à Omdourman, dans la banlieue ouest de Khartoum, mais les nouvelles ne sont pas bonnes.
Il n'y a rien à Omdourman. Pas de sécurité, pas de nourriture, pas d'eau.
Alors pourquoi est-ce que vous y retournez ?
C'est chez moi, c'est là que mes enfants vont à l'école. On va tout recommencer du début, on n'a plus rien.
Les combats qui se poursuivent dans la capitale n'inquiètent pas Daoula Kamal Saadala, qui rentre chez elle accompagnée de ses 6 enfants.
J'ai vu des photos de ma maison, elle est en désordre, mais je ne sais pas si elle est détruite. Si elle a été pillée, tant pis. Je suis restée chez moi le plus longtemps possible, même avec la guerre. Je ne suis partie qu'à cause de mon fils qui a un problème au cœur.
Le train mettra près de 12 heures à parcourir les 500 km qui séparent Port-Soudan d'Atbara. C'est en bus qu'il faudra ensuite rejoindre la capitale. Gaël Alex, de retour de Port-Soudan, Nairobi, RFI.
Et tous les reportages de Gaël Alex au Soudan sont à retrouver aussi sur RFI.fr.
Antananarive, 96 FM.
Des façades repeintes à la hâte, des avenues nettoyées et des jardins réaménagés. Le centre d'Antananarive a changé de visage ces dernières semaines. La capitale malgache accueillait le sommet de la commission de l'océan Indien en présence d'Emmanuel Macron. Mais ces rénovations rapides laissent un goût amer à une partie des habitants qui, eux, n'ont pas bénéficié de ces travaux. Reportage à Andavamambe, Guillaume Fabry.
Seule une poignée de passages sécurisés traverse le quartier d'Andavamambe, construit sur des marais et systématiquement inondé en saison des pluies. Comme la plupart de ses voisins, Radhav, 23 ans, doit emprunter une passerelle en bois étroite et instable au-dessus de l'eau pour rejoindre sa maison.
Avec mon mari, nous ne pouvons pas sortir tous les deux chercher de l'argent en même temps, parce que sans nous, nos enfants pourraient tomber et se noyer. On devrait d'abord commencer par aménager les bas quartiers, mais ils ont préféré améliorer ce qui est déjà très bien. Le président doit voir ce qui se passe ici. Il a été élu grâce à nous. On a l'impression d'être oublié et exclu.
Monsieur Soave, 71 ans, porte lui aussi un regard très sévère sur les travaux menés récemment autour de l'avenue de l'Indépendance.
Pourquoi un seul homme, Monsieur Macron, vient ici? On fait tout, il mobilise tout, de l'argent, les personnels, les hommes, tout, tout. Il cache notre pauvreté, ça m'affecte beaucoup, hein. C'est de l'hypocrisie.
La maire d'Antananarive, Arlal Ramanantsou, promet que les efforts de rénovation et d'aménagement entamés il y a quelques semaines ne sont qu'un début et que les 6 arrondissements de la capitale en bénéficieront. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Toujours aucune communication d'un avant-projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Les deux voisins devaient soumettre leur contribution à Washington. Hier, ce processus est loin d'être terminé, mais déjà, il est critiqué, notamment quant au risque de bradage des ressources de la RDC, évoqué par une quarantaine de personnalités dans une lettre ouverte au président Tshisekedi. Mais pour le professeur Martin Ziakou-Lambiza de l'Université catholique du Congo, ce partenariat sur les minerais stratégiques pourrait profiter économiquement à la RDC.
La captation des investissements américains contribuera à économiquement, notamment, donner de l'emploi aux Congolais, et ça pourrait contribuer aussi à motiver davantage le gouvernement à assainir l'environnement des affaires en luttant de manière beaucoup plus rigoureuse, notamment contre la corruption. Tout cela pourrait contribuer à inciter le gouvernement à poursuivre ou même à intensifier les réformes structurelles pour remodeler l'État. Il est évident que nous allons en tirer profit. Mais en comparant la qualité de gouvernance entre le Rwanda et la RDC, il y a risque que le Rwanda puisse capter plus d'investissements américains que le Congo, alors que la grande partie de ressources attirant les investisseurs américains se trouverait au Congo. Et c'est ça toute la question. Ça signifie que la RDC n'obtiendra peut-être pas comme elle le veut la garantie sécuritaire, mais la RDC, en proposant un deal pour sa sécurité, verrait l'administration américaine la retourner contre elle en ouvrant une fenêtre offrant assez d'opportunités au Rwanda.
Martin Ziakou-Lambiza avec Alexandra Branjon, 3h37, en temps universel. L'Union européenne et les États-Unis appellent à l'ouverture d'une enquête sur une attaque en Tanzanie. Ce mercredi, le prêtre Charles Kitima, une voix connue pour ses critiques du régime, a été agressé. Le tout, Christina Okello, dans un climat politique marqué par une répression croissante des opposants.
Alors qu'il rentrait d'une réunion religieuse, le prêtre Charles Kitima a été agressé dans un restaurant près de chez lui à Dar es Salaam. Deux hommes l'ont violemment frappé à la tête avec un objet lourd avant de prendre la fuite. Pour l'avocat Boniface Mwabukusi, cette agression est directement liée à ses prises de parole.
La personne qui a donné ce coup était un professionnel, quelqu'un de formé, pas une personne ordinaire. Kitima était toujours franc. Il parlait de l'état de droit, de la responsabilité des dirigeants. À mon avis, il a été attaqué pour ce qu'il défend.
L'Union européenne et les États-Unis ont réclamé des explications sur cette attaque. Boniface Mwabukusi exige une enquête impartiale.
Nous nous éloignons de l'état de droit. Il faut agir. Cette enquête ne peut pas être menée par la police ou les services de sécurité. Il faut une commission indépendante, peut-être sous l'autorité des juges. Jusqu'ici, sur les disparitions forcées, on nous a parlé d'enquêtes, mais elles n'ont jamais abouti. Si rien ne change, il en sera de même cette fois encore.
Cette attaque survient dans un contexte particulièrement tendu, à 5 mois du scrutin présidentiel. Un climat illustré aussi par les cas de l'opposant Tundu Lissou, sous le coup d'un procès pour trahison passible de la peine de mort. Dans ces contextes, hier, l'Église a appelé ses fidèles à boycotter le scrutin si les réformes promises ne sont pas engagées.
Christina Okello, des rivières qui sortent brutalement de leurs lits et des habitants qui se retrouvent les pieds dans l'eau. 45 000 Somaliens ont été touchés par des inondations soudaines depuis la mi-avril. C'est ce que disent ce matin les Nations Unies qui indiquent qu'au moins 4 personnes ont été tuées. L'ONU alerte aussi face au risque d'invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maghreb et au nord du Sahel. Ce petit insecte de quelques centimètres de long peut dévorer des milliers d'hectares de plantations et depuis quelques semaines, il se développe de plus en plus, la faute aux conditions météo idéales pour leur reproduction. C'est ce que dit Cyril Piou, prévisionniste à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
La situation de cette année est liée aux très bonnes pluies qui ont eu lieu dans tout le Sahel et surtout dans le nord du Sahel en août et septembre dernier. Et ces très bonnes pluies ont généré de la végétation dans des endroits qui habituellement reçoivent très très peu de pluie à cette période. Et cette végétation a permis aux criquets de se multiplier pendant plusieurs mois, assez tranquillement, on va dire, puisqu'ils étaient dans des endroits difficiles d'accès et majoritairement avec des problèmes de sécurité pour y accéder. Et ces groupes ont petit à petit migré vers le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, en décembre, janvier. Et ils ont pu se reproduire dans ces endroits-là aussi, parce qu'il y avait eu des très bonnes pluies aussi dans ces endroits-là en septembre. Donc les conditions étaient idéales pour qu'ils puissent se reproduire. Et donc là, on arrive au printemps avec des populations qui sont déjà assez haut niveau en termes d'effectifs, et des groupes qui sont remontés jusqu'en Tunisie. Et ça s'était pas vu depuis une vingtaine d'années.
Propos recueillis par Jeanne Richard. On termine ce journal au Bénin, où le Tour cycliste s'achève. Sixième et dernière étape aujourd'hui. Hier, les coureurs ont relié à la capitale, Porto Novo. Le maillot jaune, Reinhard Jansen van Rensburg, a remporté sa deuxième étape. Les Béninois aussi se sont illustrés. Deux hommes dans l'échappée du jour. Reportage Olivier Pron.
Le maillot du premier des Béninois. Merci d'applaudir très fort. Sodiano Ricardo Durand.
Chez moi, c'est vraiment une fierté pour moi parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné pour pouvoir donner le meilleur de moi, même de l'équipe. Et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui.
Ricardo Sojede en a rêvé, 80 km d'échappée, repris dans les artères de sa capitale par un peloton affamé, 12e au final, 32e au général. Qu'importe, le cyclisme béninois travaille bien et progresse vite. Ex-monteur des cyclistes rwandais, investi avec ceux du Bénin depuis les États-Unis, Jock Boyer estime avoir fait en 3 ans ici ce qu'il avait mis 8 années à construire au pays des mille collines. Glorad Saizonou, 19e aujourd'hui, est confiant et patient.
Je crois que avoir la confiance et la foi, ça va donner quelque chose. Ça progresse, on le constate tous, on s'améliore de jour en jour avec de nouveaux équipements et beaucoup d'entraînement, on progresse beaucoup et ça se voit quand même. L'objectif n'est pas encore atteint, on rêve encore beaucoup plus, mais je crois que ça va aller avec le temps, chaque chose en son temps.
En gros, donc, les résultats vont venir. Et bien même, résume Ezer Mensa.
C'est que nous avons de bons rails. Dans les années à venir, nous allons frapper fort.
Olivier Pron, Cotonou, RFI.
Il est 4h42 à Cotonou.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, l'émotion et le choc au Bénin après l'attaque terroriste du 17 avril dernier. On en parle avec François Soudan. Un couple panafricain, c'est le titre du livre de notre invité, Elara Berthaud, livre consacré à Stokely Carmichael et Myriam Makeba. Et puis on est à Paris, au musée d'Orsay. Dans notre reportage culture, on vous emmène à la découverte des affiches de rue. Mais d'abord, on part en Côte d'Ivoire à la découverte de la méthode Kangourou, un programme pour mieux prendre en charge les bébés prématurés. Ils sont 34 000 chaque année et depuis 6 ans, le fonds Muskoka et le gouvernement ivoirien ont développé une méthode, le pot à pot, pour réduire la mortalité néonatale. Reportage au CHU de Trècheville à Abidjan, Marine Janan.
Entre les pleurs des bébés et les discussions à voix basse des jeunes mères, l'atmosphère est feutrée dans le service Mère Kangourou. 16 femmes et leurs bébés sont actuellement logés, encadrés et soignés dans cette unité. Parmi elles, Fatima Wandao, 23 ans, porte entre les seins un bébé d'un mois, son premier enfant. L'hôpital a dû déclencher son accouchement avant terme, raconte-t-elle, à cause d'une complication survenue à 6 mois de grossesse.
Il a envoyé en pouveuse. Le bébé était trop petit. Je me suis dit, est-ce qu'il peut m'en sortir? Quand je le voyais dans la pouveuse, là, il ne me sentait pas trop ça parce qu'elle était trop petite. Puis quand elle est venue ici, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre soin d'elle. Et puis les mamans qui sont ici, ils m'ont aidée.
La méthode est simple, explique l'infirmière Nicole Owo. Garder en permanence les bébés au contact de leur mère grâce à un foulard étroitement noué, comme pour prolonger la grossesse hors du ventre maternel.
On porte les bébés peau à peau à la poitrine des mamans. Et c'est cette chaleur-là qui permet à l'enfant de se développer. Et ça marche. Parce qu'on a les bébés qui viennent à 600 grammes. On les voit aujourd'hui. Ils sont normaux comme les autres bébés.
Le porté kangourou aide l'enfant à se développer, mais aussi la mère à garder un bon état psychologique, car les risques de dépression postpartum sont accentués après un accouchement prématuré. Le docteur Somé Méazieux dirige l'unité Mère Kangourou.
Ça permet à la maman aussi de regagner en confiance, parce que faire un prématuré, on se culpabilise, on est traumatisé. Donc la mère elle-même, elle voit l'enfant grandir, progresser. Parce que chaque jour, on fait les peser. 5 grammes aujourd'hui, 10 grammes aujourd'hui, demain 20 grammes au fur et à mesure. Et donc, elle sent l'enfant même grandir. Donc quand on atteint le kilogramme, on célèbre.
15 centres de soins Mère-Kangourou sont déjà fonctionnels, avec l'objectif de doubler ce nombre d'ici 2030. Le gouvernement aimerait appliquer ce programme à l'échelle nationale, encouragé par les bons résultats que souligne Marianne Astierbourg, représentante par intérim de l'UNICEF dans le pays.
Dans ce centre, je crois que pour l'année dernière, on a eu un taux de survie de 99%. 99%, c'est très important. Beaucoup de ces enfants auraient pu décéder. En effet, c'est une question de vie et de mort.
La prématurité reste l'une des principales causes de mortalité infantile. En Côte d'Ivoire, elle est responsable de près de 30% des décès néonataux. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Reportage de Marine Janin à retrouver aussi sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Dans l'actualité internationale de ce samedi, plus de 20 frappes israéliennes ont visé des sites militaires à travers la Syrie cette nuit. Des entrepôts et des sites militaires à Dera, près de Damas et dans la région de Hama et de Latakié, selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Des frappes israéliennes qui ont aussi visé Gaza. Hier, la défense civile palestinienne fait état de 42 morts. Les Australiens votent aujourd'hui pour les législatives au terme d'une campagne marquée par le pouvoir d'achat, l'environnement et les droits de douane américains. Un scrutin qui décidera de l'avenir du travailliste Anthony Albanese à la tête du gouvernement depuis 3 ans. Les Australiens sont appelés à choisir entre lui et son adversaire conservateur Peter Dutton. 3h46 en temps universel. Comme tous les samedis, on parcourt la une de Jeune Afrique avec François Soudan, son directeur de la rédaction. Il est au micro de Catherine Potet.
La une de Jeune Afrique nous conduit cette semaine au Bénin, victime il y a 2 semaines d'une attaque terroriste particulièrement meurtrière. 54 militaires des forces de défense et de sécurité ont été tués le 17 avril dans le nord du pays. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Cette attaque meurtrière a particulièrement choqué, traumatisé les quelques 15 millions de Béninois.
Oui, un vrai choc, hein, Catherine, dans un pays qui n'avait jamais connu un tel niveau de violence depuis la toute première incursion terroriste en 2019. Et cela dans le contexte d'une montée en puissance et en létalité des attaques en cette année 2025, avec un mode opératoire rassemblant plusieurs centaines de djihadistes motorisés. Alors ces scènes de guerre ont pour théâtre le nord des 2 départements septentrionaux de l'Alibori et de l'Atakora, et plus particulièrement la région boisée du Point Triple, là où se rejoignent les frontières du Bénin, du Burkina et du Niger. Elles mettent aux prises d'un côté les FAB, les forces armées béninoises, et de l'autre les djihadistes du Jnim, Diad Agrali, et de sa filiale burkinabé Ansarul Islam, Catherine.
Et pour l'armée béninoise, François Soudan, faire face à la recrudescence de ces attaques djihadistes, c'est un véritable défi difficile à relever.
Jusqu'au déploiement de l'opération Mirador au début de 2022, la menace djihadiste a été assez largement sous-estimée au Bénin. Et le système de sécurité était lui-même sous-dimensionné, avec une dépense par habitant en matière de défense qui était la plus faible de la région. Alors depuis, les choses ont changé. 3000 militaires ont été déployés sur zone, 5000 autres ont été recrutés. Le budget sécurité a augmenté de 50%, ce qui a permis la multiplication de points fortifiés le long des frontières, avec utilisation de drones, d'images satellites et une assistance extérieure en matière de formation et de renseignement. Cela dit, le combat reste asymétrique, hein, avec une armée béninoise qui est contrainte de subir les assauts puisqu'elle ne peut ni agir de façon préventive au-delà de ses frontières, ni réagir en exerçant un droit de poursuite, Catherine.
Et vous parlez même, François Soudan, d'une paralysie opérationnelle de l'armée béninoise. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, contrairement à ses voisins du Nord, hein, d'abord je pense qu'il faut le dire, le Bénin n'abrite pas ou pas encore de sanctuaires djihadistes et le nombre de recrues béninoises au sein des groupes terroristes reste pour l'instant anecdotique. La menace vient donc de l'extérieur, particulièrement de cet open space pour groupes terroristes qu'est l'est du Burkina. Le problème, c'est que les relations entre Cotonou d'une part, Ouagadougou, Niamey de l'autre sont à ce point dégradées qu'il n'y a aucune coopération sécuritaire malgré les demandes répétées en ce sens de la part du Bénin. Non seulement il n'y a plus de coopération, mais on assiste à des accusations récurrentes de la part du général Tiani, du capitaine Traoré, à l'encontre du président Talon, au terme desquels le Bénin abriterait des bases d'entraînement destinées à déstabiliser ses voisins. Alors, aucune preuve de ces affirmations n'a jamais été fournie par les juntes, hein, lesquelles se sont contentées à l'appui de leur dire de faire diffuser sur leur télévision 2 ou 3 vidéos qui se sont rapidement avérées être des faits assez grossiers, au point qu'on peut se demander, Catherine, et c'est plutôt inquiétant pour le Bénin, si ces accusations et cette absence de coopération ne relève pas finalement d'une stratégie délibérée de la part des militaires au pouvoir à Niamey et à Ouagadougou pour servir de prétexte à leurs propres difficultés sécuritaires et masquer quelques réalités gênantes, comme le résultat de la toute dernière enquête de l'ONG britannique Conflict Armament Research, qui révèle, preuve à l'appui cette fois, que la grande majorité des armements dont disposent désormais les groupes terroristes a été pris aux armées des pays de l'AES elle-même, ce qui n'est pas le signe d'une évolution positive pour ces dernières, Catherine.
Merci François Soudan. Les articles de Jeune Afrique sont à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cette interview signée Catherine Potet est à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Notre invitée ce matin est écrivaine, chercheuse au CNRS et vient de sortir un livre consacré à deux militants qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle sur le continent. Stokely Carmichael, militant révolutionnaire noir américain, et Myriam Makeba, chanteuse sud-africaine engagée contre l'apartheid. À la fin des années 60, ils sont en couple et s'installent en Guinée. C'est ce passage dans le pays qu'Elara Berto raconte dans son livre « Un couple panafricain en Guinée ». Elle répond aux questions de Laurent Corot.
Bonjour Elara Berto.
Bonjour.
Pourquoi Stokely Carmichael et Myriam Makeba viennent-ils s'installer en Guinée en 1968 ?
Parce qu'ils sont en partie pourchassés par la CIA et le FBI, qui ont cette opération Cointelpro de déstabilisation des leaders des droits civiques américains. Carmichael est emprisonné de nombreuses reprises, violemment agressé par la police plus de 17 fois. Et ils décident tous les deux d'accepter l'accueil diplomatique que leur offre ces couturiers.
Comment est-ce qu'ils sont accueillis à Conakry à l'époque, comme des stars ?
Ils sont absolument accueillis comme des stars, ils sont accueillis personnellement par André Touré et Sékou Touré, donc le couple présidentiel, et ils vont se mouler dans un univers cosmopolite d'artistes, de militants du monde entier. Ils croisent par exemple Amilcar Cabral, le grand militant du PAIGC, la famille Andrade, et donc ils vont être dans cette atmosphère extrêmement riche et culturelle de Conakry cosmopolite, début des années 70.
C'est une partie de leur vie d'ailleurs dont on parle habituellement assez peu, notamment dans le cas de Stokely Carmichael, dont on connaît plutôt l'engagement aux côtés des Black Panthers. Et pourtant, l'un et l'autre, Carmichael et Myriam Makeba, vont faire une partie importante de leur vie à Conakry.
Oui, tout à fait. C'est pas du tout anecdotique dans leur carrière. Carmichael, il passe 40 ans de sa vie en Guinée. Il va décéder en Guinée en 1998. Et l'ensemble de l'historiographie est assez polarisée par la carrière américaine, par ces années 60. Or, ce que je voulais faire dans cet ouvrage, c'est réafricaniser. C'est deux trajectoires qui ont pris fait et cause pour le socialisme africain, pour la révolution culturelle que voulait faire Sékou Touré. Et il y a eu un branchement intellectuel entre le couple Touré et entre le couple Makeba et Carmichael. C'est-à-dire que ils se sont pris de passion pour ce que Sékou Touré a appelé l'authenticité guinéenne, d'abord pour la musique, puis pour le théâtre, puis tout un pan de la société, qui a coïncidé avec ce que Carmichael défendait dans les mouvements militants, le Black Panther Party ou autres, de Reclaim Our History, réhabiliter l'histoire africaine, la part africaine de l'histoire. Et donc, au-delà de l'amitié qui a réellement existé, c'est aussi une concordance des imaginaires.
Et donc, cette affinité intellectuelle va conduire Carmichael et Myriam Makeba à s'engager pour la révolution guinéenne et l'État-parti. De quelle manière l'un et l'autre vont s'engager?
Alors, Myriam Makeba va enregistrer énormément de vinyles dans le label d'État Siliphone, le label guinéen, en Poulard, en Maninka, en Soussou et en français. Et donc, elle va chanter les éloges de Sékou Touré, du panafricanisme révolutionnaire, du socialisme du Parti démocratique de Guinée. Et elle va chanter également à chaque fois qu'il y a des hôtes diplomatiques de marque à Conakry. Dans le protocole, il y avait un concert de Myriam Makeba au Palais du Peuple.
Sékou Samaké dans la voix de Myriam Makeba qu'on entend derrière nous. Cette chanson, Elara Berto, c'est une chanson à la gloire du président Sékou Touré finalement.
Absolument, elle reprend le modèle de l'éloge en Maninka. Sékou, le chef, tu es jeune, tout ce que tu refuses ne sera pas fait. Sékou, je te salue. Donc c'est une manière de chanter ses louanges dans le modèle guinéen qu'elle adopte.
Et Stokely Carmichael, lui, comment est-ce qu'il s'engage justement en faveur de la révolution guinéenne ?
Lui, il arrive en Guinée en étant absolument ravi de pouvoir se mettre au service d'un autre hôte de marque, à savoir Kwame Nkrumah, qui a été destitué du Ghana et qui trouve refuge dans ce Conakry cosmopolite dont on vient de parler. Il veut, dans un premier temps, remettre Kwame Nkrumah en selle, politiquement, d'abord par la guérilla, il se forme, et puis finalement ça ne se fait pas, et il se met à l'étude des textes de Kwame Nkrumah. Et progressivement, il va reprendre le parti non étatique panafricain que vient de fonder Kwame Nkrumah à Conakry, qui s'appelle le All African People Revolutionary Party. Même à la mort de Kwame Nkrumah, il va reprendre ce parti et en faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire un parti organisé, transatlantique, en reprenant ses anciens réseaux états-uniens et en faisant un parti dédié aux textes de Kwame Nkrumah et aux textes de Sékou Touré, dont il s'attelle, si ce n'est à faire la traduction, du moins à faciliter les traductions et les éditions en anglais. Donc il est comme un pont transatlantique entre Conakry et les mouvements militants états-uniens.
Qu'est-ce que cette présence et cet engagement de Stokely Carmichael et Myriam Makeba en Guinée nous disent de la place de cette Guinée des années 70 dans l'Afrique révolutionnaire?
Elle remet Conakry au centre des cartographies globales des luttes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que Alger était la Mecque de la révolution, ce qui est entièrement vrai. D'ailleurs, ils y passent aussi en couple en 1969 pour le grand festival Panaf d'Alger. Néanmoins, il y a également eu plein d'autres villes qui ont été des hubs et vraiment des plaques tournantes, des circulations d'idées, de chansons, de textes et aussi de personnes. Et Conakry a été de ces villes-là et néanmoins, les archives en ont été comme oubliées. Replacer Conakry au centre des imaginaires, c'était un petit peu l'idée de cet ouvrage.
Et Lara Berto, merci.
Merci à vous.
Et Lara Berto, dont vous pouvez d'ores et déjà retrouver le livre « Un couple panafricain, Stokely Carmichael et Myriam Makeba en Guinée », ça vient de sortir aux éditions Robocric. Bientôt 4 heures en temps universel. Avant de retrouver Gaëtan Plenet pour un nouveau journal international, on fait un détour par Paris et son musée d'Orsay. C'est là que nous emmène notre reportage culture du jour à la découverte de l'exposition « L'art dans la rue », expo consacrée à 230 affiches illustrées qui peuplaient les rues dans la seconde moitié du 19e siècle dans la capitale française. Carmen Lunsman a visité l'exposition pour RFI.
Qu'elles annoncent le bal du Moulin Rouge où ventent vélos et chocolat, les affiches colorées ornent les murs, les kiosques, les urinoirs et les couloirs du métro, jusqu'à transformer des êtres humains en hommes sandwich ambulants. À la fin du 19e siècle, elles finissent par envahir tout Paris. Clémence Reynaud, conservatrice en chef architecture au musée d'Orsay, est l'une des commissaires de l'exposition « L'art est dans la rue ».
Souvent de très grands formats. Ces affiches vont susciter beaucoup de critiques, et notamment celle de Charles Garnier, qui considère que leurs tons sont criards, qu'elles sont de mauvais goût. Donc Charles Garnier va lancer un combat contre ce qu'il appelle les affiches agaçantes. C'est le titre d'un article qu'il publie dans la Gazette des Beaux-Arts en 1871.
Choquante pour certains, séduisante pour d'autres, ces affiches révolutionnent le Paris de la Belle Époque grâce aux quelques 8000 couleurs d'affiches et à un artiste ingénieux.
Le père de l'affiche moderne, c'est Jules Chéret qui va développer la lithographie en couleurs avec des couleurs de plus en plus éclatantes. Et dans les années 1880, apparaissent les premiers défenseurs qui considèrent qu'elle transfigure les rues de Paris, notamment Huysmans, qui critique la ville haussmannienne. Il en parle comme d'un décor pénitentiaire. Donc Huysmans se réjouit de la joie des couleurs qu'apportent les affiches de Jules Chéret dans la rue.
L'affiche sur le mur doit hurler, elle doit violenter le regard des passants, affirmait Henri-Gustave Jossot, autre fervent défenseur de cet art. Ces caricatures illustrent aussi bien des publicités pour des boîtes de sardines et des spiritueux que pour des journaux anticléricaux.
Les affiches traduisent, rendent compte des débats qui divisent profondément la société française à l'époque, débats sur la laïcité. Ce sont souvent des affiches qui ont une tonalité très virulente. Et les années 1880 sont également marquées par le développement d'un antisémitisme racial que certaines affiches reflètent.
Miroir de la société et symbole de la vie moderne, l'affiche incarne les luttes idéologiques, politiques et féministes s'entend, fantasmes et réalité.
Sublimée par des peintres tels que Pierre Bonnard et Henri Toulouse-Lautrec, elle passe du simple support publicitaire à un objet de collection, devenant ainsi un art à part entière.
Dans la rue, dans la rue.
L'art dans la rue au musée d'Orsay, exposition à découvrir jusqu'au 6 juillet prochain. C'est donc avec Carmen Lunsman et notre reportage culture du jour que s'achève cette demi-heure d'actualité africaine. Merci à Mathieu Degueldre et Pierre Pinto à la réalisation et à la préparation de cette demi-heure. L'actualité africaine revient dans tout juste 30 minutes. Ce sera avec Sébastien Duhamel. D'ici là, rendez-vous sur notre site rfi.fr pour suivre toute l'actualité en direct. Bon réveil à l'écoute de la Radio du Monde.